L'autobus du paradis, chapitre 1 et 2. Il me semblait faire la queue à l'arrêt du bus sur le trottoir d'une longue rue d'aspect misérable. Le soir tombait et il pleuvait. J'avais erré des heures durant dans des rues toutes pareilles, sous une pluie qui ne cessait pas de tomber, et toujours au crépuscule. Le temps semblait s'être arrêté, juste à ce moment gris et morne, où quelques boutiques seulement ont allumé leurs lampes, et où il ne fait pas encore assez sombre pour que leurs vitrines mettent une note de gaieté. De même que la nuit ne se décidait pas à tomber, de même ma promenade ne m'avait à aucun moment conduit jusque dans les beaux quartiers de la ville. Partout où j'étais allé, je n'avais trouvé que meublés mal tenus, petits marchands de tabac, bouquinistes du genre de ceux qui vendent les œuvres d'Aristote, panneaux d'où les affiches pendaient en lambeaux, entrepôts sans fenêtres, gares de marchandises sans train. Je n'avais encore rencontré personne, mis à part le petit attroupement qui s'était formé à l'arrêt du bus. La ville paraissait vide, et c'est pourquoi, sans doute, je pris place au bout de la file. La chance me sourit, car je venais à peine d'arriver, qu'une petite femme bougonne qui se trouvait devant moi dit avec aigreur à un homme qui semblait l'accompagner « Très bien, je n'irai pas du tout, voilà. » Et elle quitta la file. « Ne va pas t'imaginer, répliqua l'homme d'une voix digne, que je tiens le moins du monde à prendre ce bus. J'ai voulu te faire plaisir, c'est tout, et cela pour avoir la paix. Ce que je désire, moi, n'a évidemment aucune importance, je le comprends très bien. » Et, joignant l'action à la parole, il s'éloigna lui aussi. « Eh bien, me dis-je, voilà deux places de gagner. » Je me trouvais maintenant derrière un tout petit homme dont le visage s'assombrit quand il me vit et qui me lança un regard hostile. Puis, à haute voix et sans aucune retenue, il dit à celui qui le précédait « Cette sorte de chose fait qu'on y regarde à deux fois avant de prendre le bus. » « Quelle sorte de chose ? » demanda l'autre. « Un solide gaillard bâti en Hercule. »« Eh ! » répondit le petit homme, « je veux dire que ce n'est guère le genre de compagnie que j'ai l'habitude de fréquenter. » « Oh ! » répliqua le colosse, et me regardant, « ne tolérez pas son impertinence, monsieur. Vous n'avez pas peur de lui, j'espère. » Et, comme je n'esquissais pas le moindre geste, il s'en prit soudain au petit homme et s'écria « Nous ne sommes pas assez bons pour toi, n'est-ce pas? Voilà pour ton insolence. » Et d'un coup au visage, il l'envoya rouler dans le ruisseau. « Laissez-le là! Laissez-le là !» cria-t-il. « Je suis un homme sans histoire, moi. Voilà ce que je suis, et j'ai bien mes droits, moi aussi. » Le petit homme ne paraissait pas disposé à reprendre sa place. Bientôt il s'esquiva, et je me rapprochai prudemment, toutefois, du colosse, me réjouissant à part moi, d'avoir encore progressé d'un pas dans la file. Une minute plus tard, ce furent deux jeunes gens qui s'en allèrent bras dessus, bras dessous. Tous deux en blue jean, tous deux également sveltes et faisant entendre les mêmes gloussements avec la même voix de fossé. Garçon, fille, lequel était l'un, lequel l'autre? Il m'eût été impossible de le dire, mais pour le moment, il était clair qu'ils préféraient le plaisir d'être ensemble à la chance de trouver une place dans le bus. « Nous n'y entrerons jamais tous !» gémit une voix de femme. Celle qui parlait ainsi se trouvait au quatrième rang avant moi. « Donnez-moi 5 shillings !» fit une autre voix, « et je veux bien changer de place avec vous. » J'entendis la monnaie sonner, puis ce fut un cri de détresse, tandis que les rires fusaient autour de la pauvre femme. Elle avait quitté sa place pour conclure le marché, mais aussitôt, les rangs s'étaient resserrés et il lui était impossible d'y rentrer. Et voilà comment, d'incident en incident, la file avait été réduite à des proportions raisonnables, longtemps d'ailleurs avant que le bus ne fît son apparition. On le vit enfin. C'était un superbe véhicule, étincelant de lumière dorée et vivement coloré. Le chauffeur lui-même semblait rayonner. Il tenait le volant d'une seule main et agitait l'autre devant son visage comme s'il avait voulu enchasser la vapeur lourde qu'avait provoquée la pluie. Un murmure s'éleva de notre petit groupe dès qu'il fut en vue. « Et il a tout l'air de se donner du bon temps, le gars !» « Diablement satisfait de lui-même, dirait-on. Ne pourrait-il donc pas être plus naturel? Monsieur pense trop de bien de lui-même pour daigner nous regarder. Et qu'est-ce qu'il s'imagine? Et toutes ces dorures et ce cramoisi, j'appelle ça un pur gaspillage. Que ne dépense-t-il pas une partie au moins de cet argent pour aménager leurs locaux? Nom d'un chien, j'ai le poing qui me démange !» Rien dans l'attitude du chauffeur ne justifiait ses réflexions désobligeantes. Il émanait seulement de sa personne quelque chose qui en imposait, et il était visible qu'il ne songeait à rien d'autre qu'à bien s'acquitter de sa tâche. Dès que le bus se fut arrêté, mes compagnons se précipitèrent comme des volailles affolées, et pourtant, il y avait bien assez de place pour tout le monde. Je fus le dernier à monter, et je pus constater que le véhicule n'était qu'à moitié rempli. Aussi me fut-il loisible de choisir à l'aise la dernière banquette. Un garçon aux cheveux en bataille vint pourtant me rejoindre et s'assit à côté de moi. Au même moment, le bus se remit en marche. « J'ai pensé, me dit mon voisin, que cela ne vous gênerait pas que je vienne me joindre à vous. J'ai cru remarquer que vous aviez la même opinion que moi sur la présente compagnie. Pourquoi diable ont-ils voulu à tout prix venir, je me le demande. Ce qu'ils trouveront là-bas ne leur plaira pas du tout, et ils auraient beaucoup mieux fait de rester chez eux. Et il n'en va pas de même pour vous et pour moi. « Aiment-ils cet endroit ? » dis-je. « Autant que n'importe quoi, » répondit-il. « Ils ont le cinéma, les marchands de frites, la publicité, tout ce qu'ils veulent. Leur manque de vie intellectuelle est effrayant, mais de cela ils n'ont cure. Dès que je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il y avait eu une erreur. J'aurais dû prendre le premier bus et m'en aller. Mais je m'étais imaginé que j'arriverais à réveiller quelque peu ces gens-là. J'ai trouvé quelques camarades que j'avais connus autrefois, et j'ai essayé de former un petit cercle. Mais tous semblent avoir sombré dans la banalité de leur milieu. Déjà auparavant, j'avais eu quelques doutes au sujet d'un homme comme Cyril Blélot. J'ai toujours pensé que son style était faux. Mais au moins il était intelligent, et on pouvait toujours attendre de lui une critique valable, même si pour la créativité il ne valait pas grand-chose. À présent, on dirait qu'il ne lui reste rien que sa suffisance. La dernière fois que j'ai voulu lui lire quelque chose de ma composition, mais attendez donc, je voudrais seulement que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. Réalisant avec un frisson que ce qu'il sortait de sa poche était une épaisse liasse de feuilles dactylographiées, je marmottais quelque chose comme « je n'ai pas mes lunettes ». Puis soudain, je m'écriai « diable, nous avons quitté le sol !» Et c'était vrai. Les toits humides de la ville étaient déjà à plusieurs centaines de mètres au-dessous de nous, à demi perdus dans la pluie et le brouillard, et le spectacle qu'ils offraient s'étendait sans discontinuité à perte de vue. Je ne fus pas longtemps livré à la merci du poète chevelu. Un autre passager vint en effet interrompre notre conversation, mais auparavant celle-ci avait assez duré pour m'apprendre sur le compte de mon interlocuteur une foule de choses. La vie l'avait singulièrement maltraité. Ses parents ne l'avaient jamais tenu en grande estime, et aucune des cinq écoles qu'il avait fréquentées n'avait fait l'effort de s'adapter à son talent, à son caractère. Pis encore, il avait été exactement le genre de garçon à l'égard duquel notre système scolaire se révèle plein d'injustice, voire d'absurdité. Ce ne fut pas cependant avant ses études universitaires qu'il commença à déceler dans notre système économique la cause de ses insuccès. Le capitalisme ne fait pas seulement des ouvriers des esclaves, il corrompt aussi le goût et abâtardit l'intelligence, d'où les déficiences de notre système d'éducation et l'incapacité où il est de dépister les génies. Cette découverte avait fait de lui un communiste, mais quand vint la guerre et qu'il vit la Russie s'allier à des États capitalistes, il sentit davantage encore son isolement et devint objecteur de conscience. Les indignités dont il souffrit à cette époque de sa carrière le remplirent, il devait le confesser lui-même, d'une grande amertume. Il crut qu'il servirait mieux la cause en partant pour l'Amérique. Mais ce fut à ce moment que l'Amérique, elle aussi, entra en guerre. La Suède, il le vit alors clairement, pourrait bien être le refuge d'un art vraiment neuf, d'un art rompant radicalement avec la tradition. Mais hélas, les divers organes d'un régime d'oppression avaient mis des entraves à son désir de gagner ce pays. Il avait eu des ennuis d'argent, d'abord à cause de son père, qui n'avait jamais réussi à se défaire d'une odieuse suffisance, d'un contentement de soi digne de l'ère victorienne. Il ne recevait de lui que des sommes d'argent ridiculement dérisoires. Et puis, il avait eu des déboires avec une fille. Il l'avait crue d'abord civilisée, adulte, mais bientôt il avait découvert en elle des tas de préjugés bourgeois mêlés à des tendances nettement monogamiques. Jalousie, possessivité, deux défauts qui lui déplaisaient souverainement. En fin de compte, elle s'était montrée franchement mesquine en matière d'argent. Ce fut pour lui la goutte qui fit déborder le vase. Il s'était jeté sous un train. J'eus un tressaillement, mais il n'y prit pas garde. Depuis lors, à l'entendre, la mauvaise fortune s'était acharnée contre lui. On l'avait envoyé dans la ville que nous venions de quitter. Mais naturellement, ça avait été une erreur. Au retour, j'allais, m'assura-t-il, retrouver tous les autres passagers. Lui, non, il allait rester là-bas. Il avait l'absolue certitude qu'il y trouverait enfin un environnement où son esprit finement critique ne serait plus la proie d'une hostilité systématique et où ses talents seraient reconnus et appréciés. En attendant, et puisque je n'avais pas mes lunettes, il allait me lire le passage devant lequel Cyril Blélot avait révélé son manque total de sensibilité. Ce fut à ce moment que nous fûmes interrompus. Une des nombreuses disputes qui avaient jusque-là couvé dans le bus éclata soudainement, et ce fut la bagarre. Les couteaux sortirent, des coups de pistolet furent tirés. Mais tout cela resta étrangement inoffensif. Quand la fièvre se calma, je pus constater que je n'avais subi aucun dommage. Je me retrouvais seulement sur une autre banquette avec un nouveau compagnon à mes côtés. C'était un homme à l'air intelligent, doté d'un gros nez et d'un chapeau melon. Je regardais au dehors. Nous nous trouvions maintenant si haut que tout, au-dessous de nous, paraissait sans forme. Je ne voyais ni champs, ni rivières, ni montagnes, et j'avais l'impression que la ville, à l'aspect maussade, remplissait encore tout notre champ de vision. « C'est incroyable, cette ville immense, me hasardai-je à dire. Je n'y comprends rien. Ce que j'en ai vu m'a paru désespérément vide. Est-ce qu'il y avait autrefois une population beaucoup plus nombreuse ?»« Pas du tout, fit mon voisin. Le fait est simplement que ses habitants sont terriblement querelleurs. Quand un nouveau arrive, il ne se passe pas 24 heures sans qu'une dispute éclate entre lui et son voisin. Avant qu'une semaine soit écoulée, la querelle s'est envenimée au point que notre homme décide d'aller chercher fortune ailleurs. La plupart du temps, il trouve la rue voisine vide de ses habitants, parce que tous se sont bagarrés et ont, eux aussi, décidé de s'en aller. Il s'y installe donc, mais même alors, il n'a pas de chance, car de nouvelles querelles ne peuvent manquer d'éclater. Et ainsi, de déménagement en déménagement, il parvient aux confins de la ville et se construit une nouvelle maison. Il faut dire que c'est facile. On n'a qu'à penser à une maison et elle est là. Voilà pourquoi la ville s'agrandit sans cesse. En laissant de plus en plus de rues vides ? Exactement. Et le temps lui-même a là-bas quelque chose de bizarre. L'endroit où nous avons pris le bus se trouve à des centaines de kilomètres du centre administratif, où se présentent d'abord tous les nouveaux arrivants, ceux qui viennent de la Terre. Tous ceux que vous avez rencontrés vivent près de l'arrêt du bus. Mais il leur a fallu des siècles, selon notre façon à nous de compter, pour y arriver de déménagement en déménagement. Et qu'en est-il des premiers arrivants ? Je veux dire, il y a bien des gens qui ont dû venir de la Terre il y a plus longtemps encore. Oui, oui, il y en a. Et ils n'ont fait depuis lors que changer de place, changer sans cesse, s'éloignant toujours plus les uns des autres. Ils habitent si loin, maintenant, qu'ils ne peuvent même pas songer à se rendre à l'arrêt du bus. Les distances sont astronomiques. Là où j'habite, il y a une petite élévation de terrain, et il y a un type qui a un télescope. Avec ça, on peut voir les lumières des maisons isolées où vivent ces vieillards, à des millions de kilomètres, par rapport à nous, et aussi entre chacun d'eux. De temps en temps, ils s'éloignent encore davantage. C'est d'ailleurs là une des déceptions. Je pensais qu'on pourrait rencontrer quelques personnages historiques intéressants, mais c'est impossible, ils sont trop loin. Pourraient-ils arriver à temps à l'arrêt du bus, s'ils se décidaient à sortir de chez eux ? Théoriquement, oui, mais ce sont des distances qu'il faudrait compter en années-lumière. D'ailleurs, ces vieux fous n'en ont plus envie. Pas plus Tamerlan que Gengis Khan, Jules César, que Henri V. Ils n'en ont plus envie ? Non, pas du tout. Le plus proche de nous est Napoléon. Nous le savons parce que deux types sont allés le voir. Naturellement, ils avaient entrepris le voyage longtemps avant mon arrivée. Mais j'étais là quand ils sont revenus. Cela leur avait pris environ 15 000 ans de notre temps. Tiens, voilà justement la maison. Une petite lueur là-bas, à peine plus grande qu'une pointe d'épingle, et rien alentour jusqu'à des millions de kilomètres. Ils sont donc allés là-bas ? Oui, Il s'est construit une immense demeure, tout en style empire, avec des rangées de fenêtres illuminées, mais on n'en voit de chez moi qu'une faible lueur. Ils ont vu Napoléon ? Ils l'ont vu, ils se sont dressés sur la pointe des pieds et ont regardé par une des fenêtres. Napoléon était là. Que faisait-il ? Il arpentait indéfiniment la salle, gauche-droite, sans jamais s'arrêter. Les deux types l'ont observé pendant une année environ, et ils ne l'ont jamais vu se reposer. Tout en marchant, il marmonnait sans cesse. « C'est la faute de Soult, c'est la faute de Ney, c'est la faute de Joséphine, c'est la faute des Russes, c'est la faute des Anglais. » Comme ça, tout le temps. Jamais il ne s'arrêtait. Un petit gros, il avait l'air fatigué, mais on aurait dit qu'il ne pouvait pas se tenir tranquille. Les vibrations qui secouaient le bus me faisaient comprendre qu'il était toujours en mouvement. Mais on ne voyait plus rien maintenant à travers les vitres. Il n'y avait aucun point de repère, rien que le vide, un vide triste et morne en bas comme en haut. Je repris la conversation. « Donc la ville va continuer à s'étendre indéfiniment ?»« C'est exact, » dit l'homme intelligent, « à moins que quelqu'un n'arrive à remédier à ce développement insensé. »« Que voulez-vous dire ?»« Eh bien, ceci entre nous. » C'est précisément à cela que je travaille en ce moment. Quel est en fait le point qui fait difficulté? Ce n'est pas que les gens soient querelleurs, c'est humain cela, et il en a toujours été ainsi, même sur la Terre. L'ennui, c'est qu'ils n'ont aucun besoin. Ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent, pas toujours de très bonne qualité, bien sûr, rien qu'en l'imaginant. C'est pourquoi ce n'est pas un problème pour eux de déménager ou de bâtir une nouvelle maison. En d'autres termes, il n'y a rien dans l'économie de cette ville qui puisse servir de base à une vie communautaire. S'ils avaient besoin de vrais magasins, ils devraient forcément rester dans le voisinage des magasins. S'ils avaient besoin de vraies maisons, ils devraient se tenir à proximité des entreprises de construction et des marchands de matériaux. C'est la nécessité qui permet à la société d'exister, et c'est là que j'interviens. Ce n'est pas pour raison de santé que j'ai entrepris ce voyage. Pour le moment, en tout cas, je ne crois pas que cela me conviendrait là-haut. Mais si je puis revenir en emportant quelques vrais articles de commerce, n'importe quoi, pourvu qu'on puisse réellement mordre dedans, ou en boire, ou s'asseoir dessus, si je puis faire cela, dès mon retour dans notre ville, il y aura de la demande. J'ouvrirai un petit commerce, et tout de suite des gens viendront s'établir dans le voisinage. Centralisation, mon cher ami, il suffit de deux des rues à présent inhabitées pour loger des gens qui sont maintenant éparpillés sur plus d'un million de kilomètres carrés. Je ferai un joli petit bénéfice et en même temps, je serai regardé comme un bienfaiteur public. Voulez-vous dire que s'ils devaient vivre ensemble, ils arriveraient à moins se disputer ? Cela, je n'en sais rien. Je pense pourtant pouvoir dire qu'ils se tiendraient un peu plus tranquilles. Il serait possible d'ailleurs de créer une force de police et d'imposer quelques disciplines. De toute façon, il baissa la voix, cela vaudrait mieux, croyez-le bien. Tout le monde est d'accord là-dessus. La sécurité réside dans le nombre. Sécurité par rapport à quoi ? Me risquai-je à dire. Mais d'un coup de coude, mon compagnon m'imposa silence. Je changeai alors de question. Voyons, dis-je, s'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent, rien qu'en y pensant, pourquoi le désir leur viendrait-il de se procurer de vraies choses, comme vous les appelez ? Comment ? Mais bien sûr qu'ils en auront envie. Ils aimeront par exemple avoir des maisons qui les mettront à l'abri de la pluie. Ce n'est donc pas le cas maintenant ? Mais non ! Comment le pourraient-elles, ces maisons ? Pourquoi diantre les construire alors ? L'homme intelligent approcha sa tête de la mienne. « Question de sécurité ! » me souffla-t-il à l'oreille. « Tout au moins, sentiment de sécurité ! » Tout va bien pour le moment, mais plus tard, vous comprenez. Quoi ? Dis-je en baissant involontairement le ton. Mon interlocuteur remua les lèvres, comme s'il s'attendait à ce que je lise sur elle sa pensée. J'approchai l'oreille de sa bouche. « Parlez plus haut, » dis-je. « Il va faire nuit d'un moment à l'autre, » murmura-t-il. « Voulez-vous dire que le crépuscule va réellement faire place à la nuit ?» Il opina de la tête. « Et qu'est-ce que cela peut bien faire ? » dis-je encore. Eh bien, personne ne tient à se trouver dehors quand cela arrive. Et pourquoi donc ? Sa réponse fut susurrée, de telle sorte que je dus lui demander plusieurs fois de répéter. Quand il l'eut fait, je repris, un peu ennuyé, mais sans penser à baisser le ton. « De qui parlez-vous donc ? Et pourquoi avez-vous peur de ce qu'ils vont vous faire ? Pourquoi sortirait-il quand il fait sombre ? Et quelle protection une maison imaginaire pourrait-elle vous fournir en cas de danger ? Hé, vous, là-bas ! Cria alors le colosse. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires ? Cessez de chuchoter, vous deux, si vous ne voulez pas vous faire grosser. Des fiefs et commères, voilà comment j'appelle ces gens-là. Et toi, Ike, tâche de la fermer, compris ?
Bien dit, grommelèrent les voyageurs. C'est scandaleux. On devrait les poursuivre en justice. Et d'abord, comment ont-ils donc pu monter dans le bus ?
Un gros homme, rasé de frais, qui était assis devant moi, se pencha alors en arrière et m'adressa la parole d'une voix aimable et cultivée. « Excusez-moi, fit-il, mais je n'ai pu m'empêcher d'entendre une partie de votre conversation. C'est une chose étonnante que ces superstitions de notre âge puissent avoir encore cours. Que dites-vous ? Mon Dieu, oui, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce que vous venez d'entendre. En fait, absolument rien n'indique que ce crépuscule doive jamais faire place à la nuit. » Il y a eu à ce sujet une véritable révolution dans les milieux bien informés. Je m'étonne que vous n'en sachiez rien. Tous ces fantômes imaginaires qui faisaient peur à nos ancêtres sont peu à peu balayés du champ de nos esprits. Ce que nous apercevons maintenant dans cette lumière douce et atténuée, c'est la promesse de l'Aub, une nation tout entière qui, progressivement, passe de l'ombre à la lumière, passage lent, imperceptible naturellement. Et ce n'est pas seulement par les fenêtres placées à l'est que la lumière pénètre quand vient le jour. J'ajoute que cette passion pour les vraies marchandises dont parle notre ami, ce n'est, il faut le dire, que du matérialisme. C'est rétro, c'est plat, c'est terrestre, une vraie nostalgie de la matière. Nous autres, nous regardons cette cité spirituelle, car en dépit de ses défauts, elle est spirituelle. Nous la regardons, dis-je, comme une sorte d'école élémentaire dans laquelle les fonctions créatrices de l'homme, maintenant libérées des entraves de la matière, commencent à essayer leurs ailes. Sublime, n'est-ce pas ?
Quelques heures plus tard, un changement se produisit. La lumière se fit plus forte dans le bus. La lueur indistincte qu'on apercevait à travers les vitres perdit peu à peu son aspect gris sale, pour passer au nacré, puis au bleu pâle, et enfin à un bleu si éclatant qu'il faisait mal aux yeux. Nous paraissions flotter dans une pure vacuité. On ne voyait ni terre, ni soleil, ni étoiles, l'abîme seulement, un abîme étincelant. J'abaissai la vitre placée près de mon siège. Une fraîcheur délicieuse entra un moment. « Que diantre faites-vous là ? » me cria l'homme intelligent. Et sans ménagement, il se pencha vers moi et remonta la glace d'un coup sec. « Voulez-vous nous faire attraper la mort ? » ajouta-t-il d'un ton rogue.
« Flanque-lui une beigne ! » cria le colosse.
Je jetai dans le bus un regard circulaire. Bien que les fenêtres fussent closes et bientôt embuées, la lumière était vive, presque cruelle. Devant les visages et les formes qui m'entouraient, je ne pus empêcher un mouvement de recul. Regard fixe, figure figée, où se lisait non un avenir possible, mais tout ce qui ne l'était plus. Visage décharné ou bouffi, yeux brillants d'une férocité qu'augmentait la bêtise, ou noyés dans un rêve dont ils ne pouvaient plus sortir, tous d'une manière ou d'une autre altérés ou éteints. On avait l'impression que tout ce monde pourrait bien tomber en morceaux si la lumière augmentait d'intensité. Tout à coup, je me vis moi-même dans le miroir fixé à l'arrière du bus, et la lumière devint encore plus vive.